Tout d'abord, mesdames, bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on puisse faire un tour de table, que chacun, chacune puisse se présenter brièvement. Votre nom, ce que vous faites dans la vie.
Oui, mon nom, c'est Julie Kaniki. Je suis préposée aux soins qui travaille au centre d'accueil héritage depuis 3 ans. Et je travaille principalement dans le service de jour. Mais je fais aussi les services de soutien à domicile.
Alors, bonjour, je m'appelle Mia et je suis préposée aux soins, donc au centre d'accueil héritage. Et je travaille dans les soins à domicile.
Donc moi, c'est Sébastien Laperrière, je travaille pour le Collège de la Cité Toronto. Je suis agent de liaison communautaire. Donc mon travail, en fait, c'est de travailler, de collaborer avec différents partenariats, différents organismes pour faire connaître les programmes, pour aider les gens qui sont en questionnement sur leur retour de carrière, sur leur choix de carrière. En fait, à prendre une décision éclairée en fonction de ce qui est offert chez nous.
D'accord, c'est excellent. Ouais. Donc, merci. Je pense que les introductions, les présentations ayant été faites, maintenant, je peux me faire le grand plaisir de demander à nos deux préposés de nous expliquer vraiment en quoi consiste ce métier. J'aimerais peut-être m'adresser dans un premier temps à vous, Julie.
OK, merci beaucoup pour la question, Zahira. Ce métier, ce que tu consiste, ce métier, c'est vraiment très important. C'est une profession très importante. Et travailler avec les individus, avec les personnes, c'est très capital. D'abord, une des fonctions que nous faisons, c'est d'assurer la dignité de la personne. Assurer la dignité de la personne, c'est pour la personne doit être propre et sécurité et confortable. La personne, son domicile doit être propre et sécuritaire. La personne est à manger. Et dans tout cela, c'est pour justement accompagner les clients dans les activités de la vie quotidienne. Ces personnes-là ne sont pas, plus pour la plupart, ne sont pas en mesure de faire des tâches quotidiennes qu'ils avaient l'habitude de le faire. Et nous sommes là pour les assister. Pas tout faire, mais pour les assister. Par exemple, se nourrir, se laver, s'habiller, prendre soin de son corps, de son apparence. Ce sont les activités de la vie quotidienne. Nous sommes là pour assurer leur dignité. Nous sommes là aussi pour optimiser la capacité fonctionnelle des clients en les encourageant de rester autonomes. Bien qu'ils sont des aînés, il y a d'autres qui sont vraiment des aînés, d'autres ne sont aussi pas tellement, bon, une soixantaine et tout, ce sont des aînés, mais c'est soit à cause de la maladie, soit à cause de vieillissement. Donc, nous sommes là pour les encourager à garder leur autonomie. Vous n'avez pas tout fait pour eux, mais à garder, encourager à ce qu'ils restent autonomes. Nous les aidons aussi à optimiser la communication. La communication, c'est très important. Et c'est très important, comme nous parlons la langue française, la communauté française, dont les aînés sont des francophones. Alors, quand vous connaissez la langue, la communication sera facile, ils seront confortables de communiquer avec les personnes qui parlent leur langue. Maintenant, toujours dans le comment encourager, optimiser la capacité fonctionnelle. Ce sont des gens qui ont travaillé peut-être, ils ont travaillé, ils ont étudié, donc il faut encourager les interventions sur base de la mobilité. La mobilité est limitée. Donc, il faut travailler, encourager la mobilité, une mère positive et les activités instrumentales de la vie quotidienne. Je donne un exemple. Des courses. Faire des courses. Je donne un exemple. Pour la gestion des médicaments ou la prise des médicaments. Pour faire le ménage et l'entretien de base de la maison. Nous sommes là pour les assister. Pas tout faire, mais les assister. Donc, c'est très important de travailler avec ces gens-là. Ce sont des gens qui sont habitués à travailler, à faire leurs tâches quotidiennes et même d'avis instrumental. Prendre, par exemple, les transports publics. les accompagner peut-être dans les rendez-vous. C'est très capital, la profession des préposés. Et en fin de compte, quand vous travaillez avec eux, vous dites merci, ça fait du bien.
C'est gratifiant comme travail.
C'est gratifiant. Il n'est pas un enfant, c'est un adulte. Vous ne faites pas tout pour lui, mais vous les encouragez, vous participez. Et toujours dans le cadre comme des activités instrumentales de la vie quotidienne, il y a la lessive. Vous pouvez être la lessive pour les clients, mais ensemble, vous pouvez plier les habits. Aide-moi à plier les habits. Ou soit c'est elle ou lui qui va trier les habits blancs et les habits de couleur. Donc, vous l'encouragez à participer.
Donc, vous travaillez presque comme une équipe, on dirait. Comme une petite équipe.
Comme une équipe, voilà.
Ouais,
vous ne faites pas tout pour lui ou pour tout elle.
Oui. Donc, Mia, on a parlé du fait que c'est quand même un métier très gratifiant. C'est du moins ce que Julie a partagé avec nous, bienveillamment. Est-ce que vous aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde dans le sens où vous estimez aussi que cette profession est quand même très gratifiante? Et j'irai encore plus loin en vous demandant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous vouer à cette profession?
Alors, en fait, moi, j'ai décidé de faire cette profession au tout début parce que à l'âge de 8 ans, je devais aider ma grand-mère pour ses injections d'insuline. Et je trouvais ça merveilleux de l'aider, juste le simple fait de l'aider parce que ça lui soulage que quelqu'un le fasse pour elle. Et depuis l'âge de 8 ans, ben, j'ai voulu toujours aider mes prochains et mes aînés. Parce que, disons, sans eux, on ne serait pas au monde. Alors, ils ont besoin d'aide, alors il faut mieux les aider. Et je trouve vraiment satisfaisant de les aider, de les entendre. Comme a dit Julie, le simple fait de dire merci, ben, c'est déjà merveilleux, quoi.
D'accord. Et donc, pour vous, Julie, est-ce que c'est la même expérience? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous vouer à cette profession?
Oh, ça serait presque la même expérience que Mia. Moi, c'est quand j'étais encore, je ne sais pas, à cet âge-là, avant 10 ans, j'habitais avec ma grande sœur et son mari était infirmier. D'accord. Infirmier. Et jusqu'à même à l'âge de 12 ans, j'étais toujours avec elle. Son mari était infirmier, comment il accouchait, il la faisait accoucher même les enfants. Il aidait les enfants, les gens malades venaient chez lui parce qu'il avait un cabinet privé. Alors, quelqu'un qui sort, qui entre malade, tu vois quelqu'un pleurer ou tout et tout. Et puis, il sort, il est vraiment en bon état et tout. Donc, c'était vraiment encourageant pour moi. Donc, je l'ai fait aussi au pays parce que je suis migrante avant d'arriver ici. Donc, quand je suis arrivée ici, je ne voulais pas changer la carrière d'emblée. Alors, je me suis dit, je vais aller dans la même carrière dans la santé. Mais c'était ce qui était plus facile pour moi, c'est de commencer avec les préposés, mais évidemment, j'ai des ambitions pour continuer plus loin. Mais vraiment, c'est toujours rester à côté des personnes, des clients, de malades, et pour apporter l'aide. Ça me fait du bien.
Et du coup, quel type de compétences, selon vous, ou quel type de profil serait en adéquation avec ce que demande ce poste? Je m'adresse cette fois-ci à Mia.
Alors, moi, je pense qu'il faut être respectueuse, ou respectueux, évidemment, être vraiment à l'écoute de la personne, être empathique et discrète. Parce qu'en fait, il faut tenir compte des besoins de la personne. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. Il faut tenir compte de leurs besoins, de leurs histoires de vie, de leurs sentiments, leur culture, la religion. Il faut tenir compte de tout ça, en fait, pour pouvoir aider la personne.
Et donc, ça demande quand même, j'imagine, tout un apprentissage. Il faut quand même bien connaître la personne, bien connaître un peu sa culture. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer, au fait, pour ce poste, en tenant compte du fait que ça demande quand même ce type de connaissances?
Merci beaucoup pour la question. Évidemment, ce n'est pas facile pour premier contact de connaître la personne. Donc, c'est pourquoi il y a la formation. La formation des préposés est très importante. Nous acquérions ces capacités, ces habiletés à partir de la formation. Moi, je dirais d'abord, vous devez avoir le diplôme des préposés aux soins d'un collège de l'Ontario ou un diplôme équivalent. Vous devez être en bonne condition physique. Vous devez être capable de travailler dans donc, vous devez être capable de travailler dans un endroit ou dans un département où il y a la diversité des cultures. Vous devez avoir ça dans la tête. Et puis, vous devez être capable de travailler dans les différents quarts de travail. Vous devez travailler n'importe soit les jours, les soirs, la nuit ou même la semaine, la fin de la semaine. Donc, quand nous allons chez les clients, d'abord, vous ne connaissez pas les clients, les contacts, la présentation, c'est très important. Mia l'a dit, à partir déjà de votre faciès, de votre visage, même le client peut voir que non, vous êtes empathique, vous êtes là, vous êtes prête à l'aider. Donc, le jugement, vous devez rester professionnel. Et Mia l'a souligné, donc vous devez connaître bien qu'il y a le plan d'action, je vais en venir. Parce que quand nous y allons, nous n'allons pas faire tout donc, de notre tête. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action établi déjà pour chaque individu. Ce n'est pas tout le monde a le même plan d'action. Et ce plan d'action-là, c'est recommandé, c'est exigé par le ministère de la Santé et des soins de longue durée. L'évaluation des clients, de chaque client, doit être faite afin d'identifier les besoins du client. C'est pourquoi nous devons tenir compte des besoins des clients et de leurs préférences. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que les clients veulent. Donc, nous travaillons en équipe. Alors, quand vous faites ça, donc le professionnalisme, l'empathie et la présentation, tout et tout, ça va créer un contact, un climat de confiance. Le client ne vous dira pas le tout le premier jour. C'est le climat de confiance que toi préposé qui va créer dès ton premier jour, le premier contact avec les clients.
Et du coup, justement, cette relation de confiance, elle s'installe progressivement, n'est-ce pas?
Oui. Les préposés doivent avoir un esprit d'observation. Donc, vous devez observer. Quand vous arrivez chez le client, il faut voir la personnalité, toute la personnalité. Ce n'est pas forcément ce que tu dois aller faire, soit je suis allé chez le client pour lui donner les bains. Mais autour des clients, comme je l'ai dit au départ, l'environnement, est-ce que c'est propre, c'est sécuritaire? Il faut jeter un coup d'œil. L'état de santé des clients, parce qu'à partir de ces observations, soit vous pouvez remarquer quelque chose sur le plan de sa santé ou son bien-être. Et vous l'avez reporté aux personnes concernées, soit au gestionnaire des cas, soit au superviseur. C'est avec l'observation.
D'accord. Et justement, vous avez fait allusion au fait qu'il est quand même impératif de pouvoir se doter d'une formation préalable pour bien pouvoir se donner les moyens, les outils de faire ce travail, de mener ces missions à bien. Justement, j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau programme de formation accélérée de préposés au service de soutien personnel de la Cité à Toronto? Et en tant que professionnel francophone travaillant dans ce domaine à Toronto, quelle est votre appréciation du programme tel qu'il est offert par la Cité, le cas échéant?
Ok, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, programme accéléré, c'est très important, c'est très bien. Pourquoi? Vous savez, le français domine, prend maintenant gagne le terrain à Toronto. Il y a beaucoup de francophones. Si, quand je lutte, je ne sais pas si je suis correcte, mais je crois que jusqu'au janvier 2020, il y avait plus de 76 000 francophones à Toronto. Je ne dis pas de Grand Toronto. S'il faut parler de Grand Toronto, c'est plus de 121 000. Donc, il y a lié qu'il y ait des formations de francophones préposés. C'est très important parce que dans les préposés, dont nous avons une grande communauté francophone. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas comment vous allez sentir, vous qui parlez français, on vous envoie quelqu'un qui parle anglais pour vous assister. D'abord, il y aura barrière communication, problème. Et ces gens-là, les aînés, ce sont les aînés, ils ont déjà des problèmes de santé. Et puis avec le vieillissement, les caractères changent. Si je ne comprends pas quelqu'un, je peux m'énerver facilement. Le climat ne sera pas un bon, une bonne ambiance. Donc moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui parle français pour m'assister. Et deuxièmement, la population vieillit. Donc, comme je l'ai dit au début aussi, que les gens, ce sont des gens qui sont habitués à faire leurs activités eux-mêmes. Mais à un certain niveau, ce n'est pas qu'ils le font sciemment. À un certain âge, on peut forcer à faire, mais on a des limites. Donc, quelque part, la communauté francophone aura besoin de préposés qui parlent français. Pas français comme deuxième langue, mais français comme première langue. Pourquoi je dis cela? Excusez-moi si je parle trop. Parce que si le français est votre deuxième langue, vous aurez l'accent anglophone. Et avec des aînés, il y aura aussi des difficultés parfois pour comprendre. Donc c'est pourquoi je dis que c'est très important de faire cette formation accélérée. C'est très important pour les préposés. Parce qu'on a besoin des préposés qui parlent français.
D'accord. Donc, vous avez souligné l'importance justement d'avoir une formation linguistique. J'aimerais adresser la prochaine question à Mia, ou plutôt revenir sur la même question. Mia, selon votre expérience, pourquoi est-ce qu'il est particulièrement important que les résidents et les résidentes, et au-delà, les patients francophones, puissent bénéficier de l'accompagnement d'une préposée ou d'un préposé au service de soutien personnel dans la langue de son choix, c'est-à-dire le français?
Ben, comme elle a dit, Julie, hein, le simple fait que quelqu'un parle la même langue que nous, en fait, ça entraîne, on satisfait mieux aux besoins de la personne parce qu'ils peuvent mieux s'exprimer et ne pas avoir cette barrière de langue. Et je trouve que c'est très bien d'avoir cette formation accélérée. Je crois qu'elle dure 24 semaines. Il est très bien d'avoir cette base pour avoir... Pour simple fait de ne pas se blesser au travail, pour savoir comment aider la personne, juste avoir une base. Après, l'expérience de travail, vous aurez en travaillant, en fait. Et là, avec la pandémie, on a vraiment besoin d'aide pour nous aider à prendre soin des personnes. Il manque du personnel, alors on a vraiment besoin d'aide, quoi, de préposés. Et comme elle a dit aussi, Julie, les personnes, la population francophone augmente, donc on manque de personnel. On manque énormément de personnel.
Est-ce que Julie aimerait réagir par rapport à ceci?
Je vais ajouter à ce que Mia a dit. Voilà. Comme on l'a dit, donc le travail, ça ne reste pas seulement au niveau de nourrir, faire l'entretien de la maison ou quoi, les préposés aux soins. Donc, les préposés doivent être capables de gérer même le médicament, d'aider la personne comment prendre le médicament, de respecter les consignes autour de la prise des médicaments. Les préposés doivent être capables de faire des transferts de malades de façon sécuritaire. Donc, si la formation n'est pas là, on peut se dire, à la maison, on fait le ménage et tout. Ce n'est pas la même chose. Il y a plus que ça.
Préposés, il y a des techniques, aussi. J'imagine, des techniques spécifiques.
Il y a des techniques dont il faut apprendre ça en formation.
Et il y a l'aspect légal aussi.
Voilà. Et dans la formation, il n'y a pas seulement la théorie, il y a aussi la pratique. Ils vont aller faire le pratique dans soit des maisons de soins de longue durée, soit dans les hôpitaux. Et en plus de cela, quand ils seront sur le terrain, il y a le travail d'équipe. Les préposés, nous ne devons pas travailler en compétition, mais en collaboration. Vous apprenez aussi auprès de ceux qui sont là avant. Pas en compétition, mais en collaboration, le travail d'équipe et tout. Donc, dans cette formation, on va vous dire même comment gérer même le stress. Comment gérer le stress personnel. Il faut connaître les facteurs qui développent le stress ou qui sont les facteurs qui... les facteurs qui sont favorisants pour le stress, d'abord personnel. Vous connaître vous-même très bien avant de connaître l'autre. Mais toujours dans la formation, comme je dis, ce sont des aînés. Les karatés qu'ils avaient lorsqu'ils avaient une vingtaine, une quarantaine d'années, cinquante années, ce n'est pas la même chose. Donc, vous serez en face, bah, devant le genre qui vous sourit à tout moment. À cause de son état de santé ou de vieillissement, il va réagir d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut savoir comment s'y prendre. Et il faut aussi noter que même si les clients agissent de façon agressive ou comment, ne prends pas ça personnellement. Mm-hmm. Donc, il faut considérer que c'est peut-être à cause de son âge ou de sa maladie. Donc, tu ne vas pas refuser d'aider quelqu'un parce que soit il t'a insulté, peut-être parce qu'il t'a refusé. Il peut te refuser aujourd'hui de l'aider, mais demain, ça serait différent. D'accord. Donc, il ne faut pas prendre des choses personnelles. Et tout ça, ça s'apprend. Connaître le facteur qui favorise le stress, qui provoque le stress chez toi-même, avant de connaître l'autre. Parce qu'il faut gérer, il faut savoir comment gérer tes stress. Parce que les stress seront toujours là. Ce sont des gens qui ont des caractères de maladie, par exemple, comme la maladie, comme la démence. Quelqu'un va faire des choses, ce n'est pas parce qu'elle veut faire ça ou veut faire ça, mais ça cause de son niveau cognitif, de sa maladie. Donc, tout ça, on apprend ça pendant la formation. Même si vous avez une formation de, comme on a dit, 24 semaines ou 9 mois et tout, mais il y a une formation continue. Nous devons faire une formation continue. Les choses changent. Comment s'adapter? Et selon les recommandations des ministères de santé, il faut une formation continue. Et cela nous aide aussi à nous améliorer.
Certainement. Et Mia, pour rebondir sur ce que Julie vient de nous présenter, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, faute d'accès à un service de soutien français, allons dire, quelle est la pire chose qui pourrait arriver à un résident ou à une résidente ou un patient ou une patiente, selon vous?
Donc, si la personne n'a pas accès à un soin dans sa langue, qui est le français là, la personne peut avoir un manque de compréhension, donc on ne satisfait pas à ses besoins. La personne aussi peut s'isoler, donc il y a une solitude, alors c'est pas bon pour eux non plus, cette solitude, parce que ça peut entraîner d'autres problèmes, comme a souligné Julie. Absolument. Donc la communication est très très importante. Et la communication aussi peut se faire, même si c'est oral, mais on peut aussi voir les communications non verbales. Donc, la formation est aussi utile par ça, pour regarder ces communications-là, pour voir si peut-être la personne est en train de souffrir, mais il ne le dit pas. C'est très important.
Certainement. Et Julie, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous aviez mentionné un peu plus tôt dans cet entretien. Vous aviez mentionné deux choses, que la francophonie est en progression, donc on est de plus en plus nombreux au sein de la francophonie. Et deuxièmement, vous avez aussi fait allusion au phénomène de vieillissement de notre population ici à Toronto. Donc, en tenant compte de ces facteurs et peut-être de d'autres facteurs également, est-ce que vous pensez qu'il existe des opportunités importantes pour des personnes qui veulent se constituer préposées au service de soutien personnel dans le Grand Toronto?
Certainement, il y a des opportunités vraiment importantes. Les gens qui seront formés comme préposés ne manqueront pas du travail, à moins que tu sois paresseux ou paresseuse. Ils ne manqueront pas du travail parce que, d'abord, comme vous le connaissez, nous avons le centre d'acquéritage, nous avons un pavillon francophone à Bendel, et j'ai lu il y a quelque temps, si pas un mois ou deux mois, il y a Richelieu-Willand, ils ont reçu 258 lits pour les soins de longue durée. Il y aura le soin de longue durée pour les francophones. Donc, et même alors, il y a aussi des familles qui aimeraient que leurs parents, parce qu'il y a des aînés qui restent avec les aidants, qu'en allant au travail, ils aimeraient peut-être que les aidants, ils préposaient quelqu'un soit à côté, soit juste accompagnement avec les membres des familles. Donc, du travail, il y aura toujours du travail. On ne peut pas manquer du travail tout en étant préposé aux soins. Le travail, il y en aura. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, moi, je travaillais dans une compagnie, organisation anglophone. Mais c'est lorsqu'on m'a envoyé ici au centre d'accueil héritage, il y a de cela en 2017, pour voir et assister une cliente. Ici, c'est francophone. Et c'est là la première fois, parce que je pense que la préposée qui venait avant était anglophone. Alors maintenant, le gestionnaire des cas, chaque fois qu'il venait, il devait être là pour traduire. Alors maintenant, quand je suis arrivée, c'était la même chose. Le gestionnaire des cas était arrivé. Alors maintenant, quand je parlais français, je dis, ah, tu parles français? Moi, je dis oui. Oh, elle était émerveillée. Et puis, elle est sortie, m'a laissée avec la cliente. Et puis, elle est revenue pour me dire, tu dois donner ton CV.
Wow.
Alors, deuxième fois, je suis arrivée pour notre cliente. On m'a vu par le superviseur. Elle m'a dit, mais où est ton CV? Et c'est comme ça que j'ai trouvé du travail. Donc, je n'ai pas appliqué ici. C'est lorsque l'organisme anglophone qui m'a envoyé, parce que quand on demande l'emploi, on demande toujours quelle langue vous parlez. À part l'anglais, quelle est l'autre langue? Je mentionne le français. Donc, vous savez, quand ils avaient affaire aux clients qui parlent le français, parce que c'était les CCA à l'époque, Adam m'a envoyé. Alors, là, dit que non, amène ton CV. Et c'est pourquoi j'ai apporté mon CV et j'ai été recrutée ici au centre d'accueil héritage. Je n'ai pas appliqué, c'est en me voyant parler la langue française. Ils étaient vraiment émerveillés.
Comme toute bonne chose, notre entretien arrive pratiquement à sa fin. Mais quand même, j'aurais une autre question à vous soumettre avant le mot de la fin. Est-ce que, Julie et Mia, cette formation, plutôt cette profession, peut déboucher sur d'autres opportunités de carrière dans le domaine de la santé? Si oui, lesquelles? Et comptez-vous en poursuivre prochainement?
Oui, je répondrai tout de suite. Non. Oui, certainement. Ça peut déboucher sur les sciences infirmières, devenir infirmière. On a déjà dans la formation des préposés, on apprend déjà l'anatomie, le corps humain. On sait comment gérer, comment respecter les consignes autour des médicaments. Donc, il y a déjà une base. Nous sommes déjà dans le bain. Donc, pour aller devenir infirmière, c'est plus facile. Et c'est là, oui, nous avons des ambitions.
Super, c'est vraiment très, très gratifiant de le savoir aussi. C'est très inspirant également en écoutant votre parcours et savoir que pour vous, malgré tout ce que vous avez accompli, vous irez encore plus loin dans votre profession prochainement. Et j'aimerais écouter Mia sur cette question.
Ben, on peut faire d'autres formations en tant que gestionnaire de cas, en tant qu'infirmière, comme elle a dit, Julie Cagny, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. L'essentiel, c'est que la personne trouve ce qu'il veut dans ce métier. Mais c'est un métier à vocation, alors ça dépend de la personne.
On est arrivé à la fin. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe au mot de la fin?
Ben, j'ai rien à ajouter, mais c'est simplement venez nous aider, venez nombreux, venez aider les personnes âgées, ils ont besoin de vous. Et ils se sont battus dans leur vie et ils méritent bien notre aide.
C'est ça.
Absolument, c'est très beau mot de la fin. Oui. Julie, un mot de la fin de votre part?
Oui, j'ai un mot de la fin, surtout à Sébastien qui s'occupe du Collège de la Cité. Oui, encourager les gens à s'inscrire dans cette profession. En tout cas, ils ne vont pas regretter du travail, il y en a. Il y en a. Et puis quand ils sont là, qu'ils puissent se donner 24 semaines, ce n'est pas peut-être beaucoup, qu'ils puissent se donner. Et l'amour, avoir l'empathie, le professionnalisme, donc respecter la dignité de la personne. Donc, ils vont s'inscrire, c'est parce qu'ils ont déjà quelque part cette vocation, qu'ils continuent et qu'ils puissent se battre quoi, pour avoir leur certificat et venir sur le terrain. Nous les attendons.
Alors, encore une fois, bienvenue Mireille. Vous êtes résidente au Centre d'accueil Héritage. On a le grand plaisir, le grand honneur de vous recevoir ici aujourd'hui sur ce plateau virtuel de Choc FM pour parler justement de votre expérience avec les préposés, avec ce qu'on appelle les PSSP, et ce, dans le cadre justement du nouveau programme de formation accéléré qui a été lancé il y a quelque temps par le Collège La Cité. Bienvenue.
Merci, bienvenue à vous aussi.
Encore une fois, avant de commencer, je sais qu'on a eu des présentations au début de notre rencontre. Est-ce que vous pourriez vous présenter de nouveau à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Mireille et Habiba, j'ai deux noms, Mireille et légalement, et Habiba parce que les gens me connaissent, j'avais une compagnie qui s'appelait Habiba. Et je réside au Centre d'accueil héritage il y a maintenant 5 ans. Et je suis archi contente. Et je le chante à tout le monde. Et il y a bien des bienfaits. Et c'est tout de positif. Les gens sont extrêmement cordiaux. Et ils nous comprennent et on se sent chez nous. Nous n'avons pas d'enfants. Je vis avec mon époux, nous n'avons pas d'enfants, mais nous considérons cette place notre maison.
Mireille, j'aimerais vous poser une question pour les besoins de cette entrevue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut vieillir en dignité en 2021 et aussi quels sont les besoins, les vrais besoins de nos seniors pour qu'ils puissent justement vieillir sainement dans le Grand Toronto?
Oui, non, les besoins des seniors, vraiment, c'est la sécurité, c'est le respect, l'autonomie, c'est les finances. Et je trouve que moi, une fois au centre d'accueil, j'étais vraiment ébloui parce que c'est ça, on se sent en sécurité. S'il y a des problèmes de finances, on peut toujours discuter. Tout le monde est là, de l'administration, tout le monde est là à nous accueillir, à nous faire sentir que nous sommes, c'est une famille. Et ça, c'est très important.
D'accord.
Ça, c'est très important. Et de là, pour nous, les préposés, nous ne savions pas beaucoup au sujet de préposés, au sujet d'aide. Nous savions qu'il y en avait, mais nous n'étions pas en mesure, on croyait que on est âgés, mais nous sommes jeunes et nous sommes actifs. Mais voilà que tout d'un coup, mon époux et moi, en un an, nous avons les deux subi des grands problèmes. Et si nous n'étions pas ici au centre d'accueil héritage, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Je crois que mon mari aurait été déjà au long terme. Je crois que moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que ça, c'était une année très catastrophique, mais ce sont les préposés qui nous ont aidés. J'ai des émotions, je m'excuse.
Non. Mais on est contente quand même que vous ayez pu surmonter cela. Ça a quand même pris beaucoup de courage. C'est tout un parcours. Hein. Pour revenir à ce que vous disiez, à ce que vous partagez avec nous, justement, Mireille, quelles sont les inquiétudes majeures de nos seniors, de nos aînés, sur le plan de la prise en charge de leurs besoins quotidiens, de façon générale?
L'être humain s'imagine qu'il va rester toujours autonome, mais il y a un moment où ce n'est pas possible. Et c'est difficile pour la personne de l'accepter. Mais le fait que les préposés sont tellement capables et gentils d'aider la personne à accepter qu'on n'est pas autonome à 100%. Nous sommes là pour vous. Mais c'est fait tellement gentil, tellement bien qu'on l'accepte facilement. Mais parce que on a de la fierté et on s'imagine toujours qu'on n'a pas besoin d'aide physique. Mais ce n'est pas le cas.
Et d'ailleurs, un peu plus tôt dans cet entretien, vous avez mentionné que c'est une famille pour vous, les centres d'accueil héritage, c'est pratiquement une famille pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous y plaisez tant? Je sais que vous avez donné quand même quelques éléments d'information, mais pourriez-vous nous expliquer vraiment quelle est la particularité de l'expérience, les centres d'accueil héritage?
Alors, tout est bien organisé. Disons, pendant la pandémie, nous ne nous sommes pas sentis seuls. Tout le monde, quoique virtuellement, nous ne voyons pas l'administration ou bien le personnel, mais le personnel était tout le temps avec nous. Alors, nous sentions que nous n'étions pas seuls, surtout si c'est un couple comme nous qui n'ont pas de famille. Alors, ça, c'est dur. Mais savoir qu'ils sont là, les préposés, taper à la porte pour savoir si nous étions, si on avait besoin de quelque chose, est-ce que vous êtes bien, il y a quelque chose. Alors, on se sentait vraiment chez nous.
Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir compter sur son PSSP? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un PSSP ou une PSSP des plus fiables?
Voilà, je vais vous dire. Premièrement, mon époux était très actif et tout d'un coup, il a eu des problèmes d'hospitalisation, de je ne sais quoi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'arrivais pas toute seule à aider. Et c'est là que j'ai essayé d'appeler, de demander de l'aide. Et j'étais ébahie parce que j'ai eu vraiment de l'aide incroyablement de tout point de vue, physique, moral, il y avait toujours un sourire. Et puis, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai en même temps, ça c'est une coïncidence, mais en même temps, j'ai été diagnostiquée de cancer haut risque et mon mari en même temps avait besoin de soins extensifs. Ce qui fait que le personnel, les préposés m'ont dit, allez faire la chirurgie, nous on s'occupe de votre mari, vous occupez-vous de votre chirurgie. Qui fait ça? Dans quel endroit? Je m'excuse.
Non, pas du tout. Vous excusez vraiment pas.
Ça a été une année.
On est content que vous ayez quand même eu une belle expérience jusqu'à présent au centre d'accueil Héritage.
Alors c'est moi, j'ai été quand même chirurgie et ouais. Les préposés ont fait attention à mon mari. Alors qu'est-ce que vous voulez?
Absolument. Je comprends, c'est très clair, oui. Mais d'ailleurs, concrètement, de façon générale, quelles sont les qualités que vous recherchez en particulier chez votre PSSP?
Franchement, tout ce qu'elles ont maintenant actuellement.
OK.
c'est la compréhension. C'est bien sûr que c'est la langue française qui aide, parce que aussi si jamais la personne ne comprend pas, a du stress, et les noms des médicaments, et ce quoi faire, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut parler leur langue et leur faire comprendre, et les calmer, et tenir des hommes. Moi, je m'y entends, je me mêle pas des médicaments de mon époux. Je ne touche pas ça. C'est les préposés qui viennent, qui donnent les médicaments le matin, le soir. Alors, il y a tellement. C'est l'autonomie aussi, l'hygiène, si jamais il avait besoin. Maintenant, il va mieux, mais c'est les préposés qui viennent. Et Qu'est-ce que je peux dire? Vous posez-moi une question, je vais vous dire oui, c'est les préposés qui le font. C'est qu'ils nous gardent en autonomie ici, parce que si nous n'avions pas les préposés autour de nous, nous ne serions pas là. Nous aurions été tous au long terme, ou je ne sais pas où, parce que c'est à cause des préposés que nous pouvons vivre. Et je ne parle pas de moi-même, je parle de mes voisins, mes voisines, et je vois ça chaque jour, ça veut dire qu'elles se chargent de tout.
Wow, donc c'est impressionnant. Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle quand même parmi tout cela, la Cité et les centres d'accueil Héritage ont conclu, je pense que vous le savez, un partenariat pour offrir une formation accélérée aux préposés au service de soutien personnel à toute personne répondant aux critères d'admissibilité du programme. Et ce programme, il est bien sûr financé, il est financé par le gouvernement de l'Ontario. Pensez-vous, Mireille, qu'il s'agisse d'une initiative positive pour nos aînés francophones? Et si oui, dites-nous pourquoi.
Oh mon Dieu, ça c'est une très bonne nouvelle, parce que ça aiderait les préposés, premièrement, qu'elles ne savent que il n'y a pas d'épuisement parce qu'il y a tellement du travail, on ne veut pas que ça manque de préposés, que les préposés aient à travailler en surplus, surtout avec la pandémie et ce qui se passe maintenant, comme la vie change. Et comme nous connaissons, il y a tellement de... Nous, tout le monde vieillit autour de nous. Et puis, les francophones, il y en a tellement à Toronto que ça serait une très bonne idée. Premièrement, pour les francophones, parce que ça leur enlèverait du stress, sachant qu'il y a des préposés qui parleraient français, qui pourraient les aider. Et aussi pour les préposés, de savoir qu'il y a de l'aide, qu'ils ne sont pas épuisés. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de faire ça maintenant.
Mireille, est-ce que vous auriez un petit message pour ceux et celles qui s'intéressent à ce programme, mais qui hésitent toujours à s'inscrire justement au programme BSSP? Qu'auriez-vous à leur dire à ces personnes-là?
Il faut aimer ça. Premièrement, ce n'est pas une personne qui devrait rentrer, prendre ce programme simplement parce qu'ils ont besoin de fonds ou quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup savoir comment, c'est-à-dire nos préposés du centre d'accueil héritage le font avec amour. Alors, je dirais, si vous n'avez pas ce don-là, ne le faites pas, mais si vous voulez aider et vous sentez, c'est une occasion pour vous d'y aller.
Absolument. En tout cas, merci pour ces belles paroles, ces paroles très sages. Je vois sourire Sébastien. Sébastien, est-ce que tu aurais aussi un petit message à partager avec nos auditeurs là-dessus?
Ben, en fait, je pense que ça exprime très bien l'impact qu'un préposé ou une préposée a avec les résidents. Je veux dire, c'est les personnes qui sont des confidents, qui sont là pour aider. Mais je pense que le point que Mireille vient de soulever, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui doivent aimer aider les autres, parce que, entendons-nous, c'est pas un travail qui peut être facile de tous les jours. Comme Julie l'a mentionné, une personne qui prend de l'âge, à un moment donné, qui fait face à des différences, à des changements dans sa vie, dans ses capacités, mais ça peut jouer sur le comportement. Alors, il faut être patient, il faut être attentif, et c'est vraiment les qualités, je pense, qui décrivent à fond, à plein gaz, ce qui fait de bons préposés. Donc, j'apprécie énormément. Merci à vous trois, Mia, Julie, Mireille, pour ce que vous avez partagé. Merci beaucoup, Mireille, aussi, d'avoir été dans l'élément personnel aussi. C'est très touchant de voir, puis je pense ça ne fait juste que bonifier ce que moi, personnellement, ce que je pense que les auditeurs pensent sur le travail d'un préposé. C'est vraiment un travail essentiel. C'est vraiment un travail où les personnes, en fait, j'oserais quasiment dire que ce n'est pas un travail, c'est une passion qui est exercée parce qu'il y a cette relation-là qui se crée. Relation père-enfant, parent-enfant, sœur et autres, c'est une relation familiale qui est créée. Là. Quand je pense à mes oncles et mes tantes qui, eux, s'entraidaient, que je regarde le travail des préposés, mais c'est la même chose qui est faite sans le lien de sang. Alors, c'est remarquable, vraiment remarquable. Merci.